Général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux. 19 films sont présentés en compétition, dont 4 signés par des femmes. Il y a les habitués Pedro Almodovar, les frères Dardenne, Aki Korismaki, Nani Moretti, Lars von Trier, le très attendu film de Terrence Malick qui n'avait pas été prêt à temps l'année dernière, et les petits nouveaux comme la française Mai Wen. Rendez-vous sur la Croisette du 11 au 22 mai. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
Officiellement, il n'en est pas question dans la résolution 1973 de l'ONU, mais certains y pensent. Et si Kadhafi était tué ? Une idée qui a longtemps obsédé nombre de dirigeants occidentaux.
Tous les samedis à 13h20, rendez-vous avec X. France Inter.
La différence.
15h04 sur France Inter, je vous laisse en compagnie de Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
L'amertume. L'amertume. La mer me tue. Dans ces conditions, comment comprendre la formule de Baudelaire ? Homme libre, toujours tu chériras la mer.
Aujourd'hui, jeudi 14 avril 2011, il est 12h30 à Luchon, au pied des Pyrénées. Nous sommes une centaine de parents, enseignants et enfants encerclés par des CRS dans une petite rue. Ils nous empêchent de manifester notre indignation. En effet, à 500 mètres de nous, Nicolas Sarkozy et Luc Chatel débattent sur la prévention de l'échec scolaire sans avoir invité ni enseignants, ni assistantes sociales et l'infirmière du collège. Ils sont venus visiter l'ERS, des établissements de réinsertion scolaire. 20 000 euros ont été débloqués pour 10 élèves et pour l'occasion. Nous voulions juste interpeller le ministre sur la nécessité d'inscrire nos écoles en zone de montagne, car ici aussi nous manquons de moyens et les écoles ferment. 10 000 euros ont été dépensés pour cacher la misère. On a déshabillé le système informatique du collège pour habiller le RS.
El fuego unido, avanza el tiro. El fuego unido, avanza el tiro. El fuego unido, avanza el tiro. El fuego unido.
Certains dénoncent les 16 000 postes d'enseignants supprimés pour des raisons budgétaires, accompagnant ainsi la version officielle du capitalisme. Quelle est la vraie raison de cette dégradation volontaire d'emploi ? L'oligarchie combat, rapport de force aidant, le principe cotiser selon ses moyens, être éduqué selon ses besoins, lui préférant la logique cotiser selon ses besoins, être éduqué selon ses moyens, plus conforme à son projet politique de classe.
Grâce à l'actualité et à Daniel Mermet et toute l'équipe, j'ai compris un truc, c'est que c'est vachement difficile de gouverner. Tellement difficile que des fois on est obligé de faire des lois. Comme la loi sur la burqa, voilà. Parce que la burqa, ça cache, c'est pas bien, la République, elle en veut pas. Il y en a trop, apparemment il y en aurait trop. Et donc voilà, il faut faire une loi pour montrer de quel bois la République, elle se chauffe. Et crac, au même moment, il y a Fukushima. Fukushima, c'est pas la burqa. Non, d'accord. Mais bon, ça fait des ordres. Parce qu'il y en a qui veulent un débat sur le nucléaire. Il y en a toujours qui veulent débattre. Le gouvernement, il est gentil. Il leur fait un débat sur la laïcité. Mais le débat sur le nucléaire, on l'attend encore. Alors moi, j'ai une idée. Pour que le gouvernement arrive à s'en dépêtrer de tout ça et ne soit pas obligé de faire un débat sur le nucléaire, il fout la burqa, confisquée à celle qui le portait, sur les cheminées des centrales. D'abord, ça sera joli parce que c'est souvent bleu. Contre le ciel bleu, voilà, ça passera inaperçu. Et comme ça, on verra enfin notre République se chauffer ou avec du bois ou au solaire. Bonne soirée à tous, à bientôt.
Pourquoi la rédaction de France Inter, qui a si largement couvert le soi-disant débat sur la laïcité et l'islam, fait-elle aujourd'hui le silence sur cette énorme entorse à la laïcité que fait M. Sarkozy en autorisant les étudiants juifs pratiquants à passer les concours de certaines grandes écoles, dont l'ENA, en dehors du calendrier prévu, pour leur permettre de célébrer la Pâque juive ? Entorse à la laïcité quand l'Élysée ordonne que les sessions d'examen soient spécialement organisées pour les étudiants juifs pratiquants, en dehors donc de la session prévue pour tous les autres. Tous les grands médias ont complètement fait silence hein, sur ce scandale. Mais enfin, France Inter, c'est quand même le service public.
Ah, on a des petits rigolos quand même au gouvernement. Ils nous font la blague du 1er avril tout le mois d'avril. Alors hier, la blague du 1er avril, c'était d'annoncer que une prime de 1000 euros allait être versée aux salariés dont les entreprises font des bénéfices et versent des dividendes à leurs actionnaires. C'était la grande nouvelle d'hier. Comme par hasard, elle tombe le même jour où on apprend que le barème de l'ISF est relevé, donc 300 000 personnes ont dû ouvrir des bouteilles de champagne chez eux hier soir parce qu'ils apprenaient que leurs impôts allaient baisser. Tout ça, ça tombe le même jour, comme par hasard. Et puis, pour bien se rendre compte que tout ça, c'est une énorme farce, enfin, en ce qui concerne les 1000 euros, parce que ça, je suis sûr que l'ISF, ça va être fait dans les jours à venir. C'est pour venir en février 2009, où Nicolas Sarkozy nous annonçait qu'il allait faire voter une loi très très rapidement pour mettre une règle des trois tiers, c'est-à-dire un tiers des bénéfices d'une entreprise irait vers les salariés, un tiers vers les actionnaires et un tiers dans les investissements d'entreprise. Voilà, cette loi n'a jamais paru, elle est tombée dans les oubliettes, un peu comme cette prime qui va tomber dans les oubliettes, parce qu'on va très très vite se rendre compte que c'est pas possible, on va dire non, c'est pas possible, c'est trop compliqué à mettre en œuvre, et il faudra faire autre chose, mais on verra plus tard.
Dans une dépêche de l'AFP, on apprend qu'un homme de 102 ans, au Japon, s'est suicidé dans un village proche de la centrale nucléaire de Fukushima parce qu'il ne supportait pas d'avoir à évacuer sa maison. Donc voilà, le nucléaire tire un trait sur le passé, tire un trait sur le futur en empoisonnant la population. Ni passé, ni futur. Donc pour les pro-nucléaires, il faudrait quand même qu'ils nous expliquent hein, combien ça coûte un vieux, combien ça coûte un jeune, un enfant, combien ça coûte une ville. Une jolie ville avec ses petits cafés, ses petites rues. Combien ça coûte? Combien ça coûte tout ça? Combien ça coûte la vie?
Daniel, là il est 6h du matin et à Amiens les petits actionnaires s'éveillent. Ils s'éveillent aussi en Bretagne avec Saint, gérant de petit casino, avec Jean-Pierre à Dijon, lui aussi gérant de petit casino, avec Maggie, Jean-Louis, François, ancien de Moulinex à Caen et avec quelques autres amis de Fakir et de là-bas si j'y suis, à Paris et en banlieue parisienne. À cette heure-ci, à 6h, on ne sait pas encore trop comment va se dérouler la journée. Est-ce qu'on va nous laisser rentrer à l'Assemblée Générale du Casino? Est-ce qu'on va pouvoir poser nos questions? Est-ce que cette année, Jean-Charles Naouri va répondre? Ouais, un peu les questions qu'on se pose autour du premier café, et pour certains, la première cigarette du matin. L'an dernier, à la même Assemblée Générale, le PDG avait préféré fuir, on s'en souvient, et il ne nous avait répondu, à toi et à moi, que par voie d'huissier, par des procès. Et il nous réclame hein, 75 000 euros à chacun. Bon, déjà, il est passé de la 63e fortune de France à la 61e en un an. Et il a gagné 160 millions d'euros en un an. Mais bon, il lui fallait deux fois 75 000 euros en plus. Bon, on aurait pu prendre peur, hein, on aurait pu se taire. Ben, on a préféré revenir simplement avec nos questions, pas pour perturber, mais pour poser nos questions, accompagner les gérants de petits casinos, les anciens salariés de Moulinex, parce qu'il nous semble que leur réclamation... elles sont justes, et que la justice est de ce côté-là. Puis si vraiment Jean-Charles Naouri nous embête, tu sais, j'ai sorti l'arme fatale ce matin. C'est la trompette à Jojo, la trompette à mon fils. J'ai vu peu de personnes résister à ça. Voilà, Daniel. Bon, bah écoute, je t'appellerai au fur et à mesure de la journée, parce que je sais que quand on va à Hiroshima, Fukushima, on n'attend qu'une seule chose, ce sont des nouvelles de l'action du groupe Casino. Est-ce qu'elle va s'écrouler à cause de nous aujourd'hui? Ciao.
Assemblée Générale Casino, pourquoi sommes-nous là avec les gérants des petits casinos, avec les anciennes ouvrières de Moulinex? Pourquoi l'une des plus grandes fortunes de France, Jean-Charles Naouri, patron de casino, nous traîne-t-il devant les tribunaux en nous demandant plein de sous alors qu'il en a déjà? Eh bien, vous le saurez en écoutant aujourd'hui ce qui s'est passé l'an passé, en juin dernier, en juin 2010, à la précédente Assemblée des actionnaires, et vous comprendrez pourquoi cette année, aujourd'hui même, alors qu'il est, tout ce petit monde est revenu, tout simplement en espérant avoir réponse à des questions toutes simples. Merci en tout cas pour vos messages qui me parviennent ici, au Japon, à Hiroshima. Je suis à Hiroshima. Et nous parlerons longuement d'Hiroshima à notre retour. Mais aujourd'hui, je veux vous parler d'une toute petite île qui s'appelle Iwaishima. Iwaishima, c'est une île qui fait partie d'un petit ensemble qui s'appelle Kaminoseki. Et sur cette petite île, Iwaishima, 500 habitants, on se mobilise depuis 29 ans, vous entendez bien, 29 ans, contre la construction d'une centrale nucléaire. Depuis 29 ans, les habitants parviennent à repousser la construction de cette centrale nucléaire. C'est le village gaulois japonais. N'empêche que ils ont peut-être évité ce qui s'est passé à Fukushima en luttant contre l'implantation de cette centrale, car cette centrale doit être construite sur une faille sismique aussi dangereuse que celle de Fukushima. Par ailleurs, c'est un endroit absolument merveilleux, on y est allé aujourd'hui, c'est splendide, c'est beau, il y a des oiseaux, il y a des poissons, il y a des baleines, c'est absolument splendide, et tout cet environnement est menacé par cette proximité. Mais ce qui est merveilleux, c'est l'entêtement des habitants de cette île qui jusque-là ont réussi à repousser l'installation de cette centrale. L'entêtement, le souffle, la longueur fait que parfois on obtient quelque chose et il se peut que dans 29 ans, nous soyons encore là à l'Assemblée Générale de Casino. Dans 29 ans, nous serons toujours là pour poser des questions à Jean-Charles Naouri en espérant avoir quelques bribes de réponses. Voilà en tout cas notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Ouais, Daniel, c'est François. Bah écoute, là on est à l'intérieur de l'Assemblée Générale des Actionnaires, il y a Jean-Charles Naouri en face de nous qui sont speech. Bon, les auditeurs de la base, si j'y suis, commencent à connaître les Assemblées Générales comme s'ils y étaient. Sauf que là, on a un sacré comité d'accueil. La salle est particulièrement quadrillée. Il y a un étage sur lequel se trouve tous les 5 mètres à peu près une caméra pointée sur les petits actionnaires qui nous cherchent plus particulièrement. Et entre chacune de ces caméras, eh bien, il y a une personne qui porte une oreillette, c'est-à-dire un vigile qui surveille la salle, ou une vigile qui prend des photos de la salle. Voilà. Donc, Assemblée Générale particulièrement fliquée aussi. Voilà. Salut Daniel, tu auras des nouvelles par la suite.
Salut Daniel, je t'appelle parce que je suis sur le cul là. Je suis sur le cul, j'écoute le journal de 13h et j'apprends un truc, c'est que les gérants des petits casinos, ils ont des problèmes, ils l'ont lu dans l'Express, c'est terrible. Sur France Inter, ils lisent l'Express, ils n'écoutent pas Mermet. Quelle bande d'andouilles. Allez, à plus, c'est Yannick de Nantes. Salut.
Comment vas-tu ?
Ça va.
Mal réveillé, on dirait.
Je me suis rendormi un peu dans le train.
T'as pris du poids, toi, non ? Donc là, Christophe, on s'était vu il y a 2 ans, il me semble.
On s'est vu en décembre 2007, et donc je te parlais de nos conditions de travail épouvantables et tout, et comme par hasard...
Comme gérant du petit casino d'Arras.
Voilà. Et comme par hasard, eh ben, un peu de temps après t'avoir vu, je suis tombé dans le coma, 3 mois d'hosto... Ils m'ont donné pour mort. Voilà, j'ai survécu, mais c'est super dur, quoi. Ça continue à être plus que dur, puisque maintenant le problème, c'est que Casino refuse, malgré les décisions de justice, d'organiser notre retour à l'emploi, quoi, de nous reclasser en fonction de notre état de santé respectif, ma femme et moi.
Donc là, on se retrouve en Gare du Nord. On va à l'Assemblée Générale des actionnaires de Casino, parce que toi t'es actionnaire de Casino, moi aussi.
Je suis actionnaire et j'espère pouvoir me faire entendre, ouais.
J'espère surtout qu'on va toucher des dividendes. Mais...
Enfin, on doit pas être parmi les plus gros actionnaires de Casino, ni toi ni moi. C'est quel lycée ? Enfin, j'ai pas regardé.
La 4. Porte d'Orléans et ensuite on prend la 3.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Pascal B et François R, l'Assemblée des actionnaires.
Deux provinciaux à Paris, un Picard et un Ch'ti, on est sûr de passer 2h30 avant de trouver la bourse. Puisqu'on va à la bourse, on va au Palais Brognard.
Tu parlais de dividendes, j'ai regardé un truc, c'est que l'impact des salaires sur le résultat du groupe, c'est moins 4% en 2009.
La baisse de la masse salariale dans le groupe Casino est de moins 4%.
Ouais.
Et la hausse du dividende cette année sera de plus 4,5%.
Par rapport à l'an dernier.
Oui, c'est intéressant que sur un an, il y ait comme une similitude comme ça, moins 4% pour les salaires. On passe la barrière du métro. Oui, c'est la similitude entre moins 4% pour les salaires plus 4,5% pour les dividendes. C'est marrant, quoi.
Ouais. Jean-Charles Naouri, il dit lui-même, il est très fier de déclarer publiquement dans les médias qu'il est un financier froid et calculateur. Donc, ça m'étonnerait qu'aujourd'hui, il vienne me serrer la main et me donner un chèque.
On va voir ça. Ah. Moi, je désespère pas du genre humain, jamais.
Oh là là, on en a marre des salariés, des prolétaires, des précaires et des perdants. On en a marre. Et voilà pourquoi ils sont devenus actionnaires. François R. et Pascal P., que vous reconnaîtrez, sont devenus des actionnaires. C'est-à-dire qu'ils ont acheté des actions. Pas des actions, mais une action, mais c'est un début, à 62 € et quelques broutilles. Et ils ne sont pas les seuls. Jean-Louis, Lionel, un autre François, Christophe, que vous venez d'entendre, lui aussi a acheté une action, ainsi que Roger, ainsi que Maggie. Les plus malins d'entre vous, qui ont l'oreille très fine et qui sont de très fidèles AMG, ont reconnu Christophe, décembre 2007, Christophe, dans son casino, son petit casino. Non, pas le casino avec la roulette, le petit magasin où il craquait. Christophe, lui et son épouse, il disait à quel point il n'en pouvait plus, à quel point les conditions étaient écrasantes, comme il était exploité, etc. Vous vous souvenez de Christophe et Maggie ? Maggie, il n'y a pas longtemps qu'on l'a rencontré avec Pascal P. Maggie, cette déléguée de l'association des Moulinex qui se débattent et qui se défendent depuis des années, depuis 2001, afin d'essayer de gratter quelques indemnités. Et bien voilà, ces gens-là, on a compris ce qu'il fallait faire avec eux. C'était les intéresser, c'était laisser tomber tout ça et devenir actionnaires. Et ce jour-là, ce 29 avril dernier, tous actionnaires, les voilà qui viennent assister à l'Assemblée générale, ordinaire et extraordinaire à la fois, des actionnaires de Casino. C'est tout à fait nouveau pour eux, c'est une conversion, on va dire, et on va voir comment ça va se passer, c'est pas forcément évident. Mais ce qui les intéresse aussi beaucoup, c'est ce prestigieux, cet extraordinaire type, avec ce QI extraordinaire, selon Alain Minc, qui est Jean-Charles Naouri, 48e patron de France en ce qui concerne ses revenus pour 2008. 1,3 million d'euros de revenus, c'est-à-dire 84 SMIC par mois. Bon, rien de fabuleux. 63e fortune française avec 452 millions d'euros. Bon, voilà. Mais c'est surtout ce QI fabuleux qui nous étonne et qui nous réjouit par avance. Et on espère que nos amis Pascal P, François R et les autres vont sortir de cette rencontre tout à fait changée et bouleversée, à moins que ce soit l'inverse. C'est jusqu'à 16h, c'est l'Assemblée des actionnaires.
Aujourd'hui, les marchés se sont plutôt bien comportés. Indice qui somme nous moins 0,0.
1,05 indice où allons-nous, 1,5 indice d'où venons-nous, 4,0 indice mystère et trou noir, moins 0,9 indice individuel, 29,0 sens de la vie, 4,8 confiance en soi, 0,6 température du corps, 37,25 température extérieure, 21 degrés. Jouissance des biens matériels, 0,8. Fréquentation des toilettes, 3,0. Nombre de mots employés, 182. Poésie effective réelle, 11,1. Taux de culpabilité, moins 14,3. État du réel, 3,1. Sensation du temps qui passe, 4,8. Déchiffrement du réel, 2,7. État du possible, 0,8. Demande affective effective 1,5, offre affective effective 1,3, difficulté surmontée 1,7, degré de partage 0,2, indice amour 2,0, abstraction 0,02, enthousiasme 0,8, taux de culpabilité 1,0, sécurité 0,81, absence.
Alors, Lionel. Et Jean-Louis.
Et François.
Et François. Parce que tous les quatre, ce matin, on est quand même venus pour l'Assemblée Générale qui se tient du groupe Casino. Et donc pour essayer d'interpeller Jean-Charles Naouri. C'est quoi l'histoire entre Moulinex et Jean-Charles Naouri ?
En 98, après un bref passage dans nos murs, il est sorti avec plus de 55 millions d'euros de plus-value. Donc là, on veut lui demander 0,002% pour pouvoir financer nos avocats dans la procédure pénale.
Est-ce que vous poursuivez ?
À l'encontre notamment de son cher et tendre ami Pierre Bléau, énarque et inspecteur des finances.
Il a dirigé Moulinex et notamment...
Voilà. Donc Bléau est rentré en 96. Hein. Que Bléau s'arrange de manière intelligente, entre guillemets, pour faire en sorte que, en 98, Moulinex ait des résultats positifs, à l'aide de plans sociaux, etc. etc. Le truc habituel, hein, on diminue les frais fixes, hein, en fait, on coupe les pattes des gens, ou les têtes. Et là, l'action de la bourse a monté, et Naouri a vendu. 55 millions d'euros, bingo. Donc trois ans après, il y a le 11 septembre, il y a 3500 personnes qui quittent le travail pour jamais y revenir. Donc là, maintenant, la justice, c'est de l'argent. C'est-à-dire que ceux qui en ont peuvent faire valoir le droit assez facilement. Et ben nous, aujourd'hui, on a déjà donné quand même pas mal d'argent à notre conseil. Hein. C'est 7000 euros quand même, c'est pas rien. L'association, le syndicat. Le coût d'une histoire en pénale, c'est 50 000 euros minimum. Donc on n'a pas les sous. Donc maintenant, on se leurre pas, hein, Naouri. Parce que moi, je suis convaincu qu'il a une seule conscience, mais elle est financière. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Mais sait-on jamais, on va lui laisser un peu la porte ouverte. L'objectif de lui dire, c'est que vous avez touché 55 millions d'euros en 98. Aujourd'hui, on a besoin de 120 000 euros. C'est 0,002% de ce qu'il a gagné en 98. Alors, je ne parle pas de ce qu'il a gagné depuis 98. Hein. Donc, il peut faire ce geste-là.
Peut-être. Pourquoi pas ? Pourquoi pas aller savoir ? Mais le problème, c'est qu'on n'arrive jamais à se rencontrer. Les gens sont occupés, les programmes chargés, les plannings, oh là 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 là, bouquets à donf. Jean-Charles Naouri, un personnage extrêmement important de l'économie française, le Einstein du Einstein de quoi ? Des supermarchés, selon le Nouvel Observateur, qui a annoncé à son de trompe comment le patron de Casino a annoncé un bénéfice en hausse de près de 15%. Jean-Charles Naouri, docteur en maths, féru de statistiques, a mis la consommation des Français en équation et a recruté des grosses têtes pour redresser Casino de l'épicerie scientifique. C'est beau, non ? C'est des gens qu'on a envie de rencontrer. Mais le dialogue, voilà, est difficile entre ces salariés de Moulinex, qui ne sont plus salariés du tout, ils ont été virés. Vous vous en souvenez, en 2001, vous vous en souvenez aussi parce qu'on les a rencontrés il y a peu de temps. Et voilà pourquoi ils espèrent, au cours de cette assemblée, des actionnaires ou le public, enfin les actionnaires, c'est pas n'importe qui peut rentrer là. Il faut avoir une action, au moins une action. Le public pourra poser des questions et apercevoir là-bas au fond, au milieu de la tribune, M. Naouri, et peut-être qu'un dialogue pourra s'engager, peut-être qu'on pourra enfin fraterniser. Qui sait ?
Sur un petit point par rapport à ta question, qu'est-ce qui change avec Jean-Charles Nohori? Il change qu'on quitte une stratégie de développement industriel à une stratégie de, comment dirais-je, de développement financier d'une entreprise. Pour vous, la petite histoire, j'ai été témoin à une époque, c'est quand Jean Mantelet mettait en place une stratégie de développement, quand il s'était planté, il disait « je m'étais planté » et il remettait 240 millions de francs dans la musique, sur ses fonds à lui.
Sur ses fonds perso.
Sur ses faux perso. Avec l'arrivée de Jean-Charles Nohori, on est dans la fondiorisation, et à un moment donné, la facture là, c'est pas lui qui paye de ses erreurs, mais c'est bien la stratégie menée sur les coûts, et donc sur les suppressions d'emplois. Pour vous rappeler une idée, simplement, un résultat qui était négatif à 5% du chiffre d'affaires, ils avaient décidé de supprimer 25% des emplois. C'était ça la logique, et c'était la règle d'or, suppression de 25% des emplois.
Je pense qu'ils ne se posent même pas de questions, ces gens-là. Ils ne s'en posent pas. On n'existe pas, on est comme la mouche sur le fromage, ou je ne sais pas quoi. Mais je pense qu'ils n'ont plus aucun respect de l'être humain. Et ils n'ont que le respect du tiroir caisse qui s'ouvre, c'est tout. Est-ce qu'ils n'ont aucun respect de la dignité humaine? Est-ce qu'ils n'ont aucun respect de la vie d'autrui? Enfin, Michel Kosick, qui s'est suicidé il y a un an et demi, qui s'est pendu parce qu'elle en avait marre de la précarité, c'est pas du pipeau. Ma copine Danielle Lalos, qui est morte il y a un mois du cancer de l'amiante, c'est pas du pipeau. Marie-Claude, qui s'est suicidée en 2002, qui s'est pendue aussi, c'est pas du pipeau. Patrice Vince, qui s'est laissé mourir au démarrage dans sa voiture et après on l'a pris en charge avec les services sociaux, mais qui s'est quand même laissé mourir de faim chez lui, c'est pas du pipeau, parce qu'il n'avait plus de statut social. Et ces gens-là, moi j'ai vécu 33 ans avec eux. Je sais que l'instruction est très longue, et aujourd'hui je m'inquiète, parce que nous, ça fait presque 9 ans qu'on attend de savoir la vérité sur l'affaire de Moulinex. Ça fait presque 9 ans qu'il y a des gens qui meurent un peu plus tous les jours, et qui ne sauront jamais pourquoi ils ont été licenciés. Alors, moi, je demande à ces gens-là, à ces politiques-là, de rendre véritablement la justice. Et ils en ont les moyens. Et ils ne le font pas, parce qu'ils protègent encore des gens de leur castre. Et c'est ça que je trouve regrettable.
On n'a jamais rencontré la joie qu'ils ont des convoques, là-bas.
C'est la place de la Bourse, justement, ouais. Des âgés. J'ai l'impression qu'on peut rentrer tôt à l'âge, hein, parce que là, on est en train de passer devant. Je vois que Jean-Louis a mis une chemise blanche aujourd'hui. C'est pour l'Assemblée Générale.
Bah oui. Tu m'as dit qu'il fallait qu'on soit propre.
Comme je suis toujours sur le pont du navire, j'ai mis ma tunique marin. Pour l'instant, j'ai toujours pas coulé, donc je garde le cap. De 18 jusqu'à la fermeture, presque 50 ans, j'ai tout le temps été à Moulinex. Donc c'est vrai que quand j'étais à l'intérieur de cette entreprise, au démarrage, je dis c'est pas possible, je tiendrai jamais 8 jours là-dedans, c'est sale, ça pue, ça fait du bruit. Et puis après, les nécessités alimentaires ont fait que je suis restée. Et puis j'ai trouvé chez Moulinex des combats que j'estimais justes, des combats de femmes pour l'amélioration des conditions de travail, pour le droit des femmes. Parce qu'on était surtout dans les années 70, à l'époque où je suis rentrée, des exécutantes. On ne pouvait pas s'exprimer, on ne pouvait pas dire quand les pièces étaient mauvaises, on n'avait pas le droit de le dire. On n'avait aucun regard sur la fabrication qu'on faisait, tu vois. Donc pendant 10 ans, jusqu'en 82, jusqu'à mon départ pour Caen, j'ai travaillé que du soir. Ce qui fait que je me suis sentie spoliée en tant que mère, parce que je voyais pas mes enfants. Quand je rentrais le soir, ils dormaient. J'allais pas les réveiller pour leur demander comment s'était passé l'école. Donc là, j'ai eu vraiment l'impression, en tant que femme, d'avoir perdu quelque chose. Perdu l'enfance de mes enfants. Donc là, j'ai vraiment une grande amertume par rapport à ça. Mais je pense que la majorité des femmes salariées dans les boîtes, qui travaillent en travail posté, ont ce même sentiment. Parce que le travail posté, c'est quoi? C'est la rentabilité à tout va, mais elle ne profite pas aux salariés, elle profite aux mecs comme Nahouri par exemple, hein. Mais pas à nous, surtout pas à nous.
Et Maggie, justement, ça a fait quel effet pour une fois, pour la première fois, d'acheter une action?
Je l'ai fait parce que ça peut me donner les moyens de continuer un combat qui est le combat de toute une vie quand même, du restant de ma vie, c'est que la justice soit rendue et que les gens qui ont fauté dans l'affaire Moulinex nous rendent des comptes. Ils doivent réfléchir un petit peu aux actes qu'ils commettent quand même. Ça me met en colère, je suis continuellement en colère, c'est ce qui me permet d'avancer.
Alors, je ne vais pas vous demander si vous avez le trac.
Ah non, j'ai jamais le tract. Quand je n'ai jamais peur, parce que quand j'estime qu'une cause est juste, je vais jusqu'au bout. et je ne me pose pas de questions existentielles à ce sujet. Je ne me sens pas dévalorisée par rapport à ces gens. Jamais. Je n'ai peut-être pas leur instruction, mais en tout cas, je suis un être de chair et de sang. J'existe, je respire et je mène un combat. Et ce combat-là, c'est le combat pour une justice sociale. Donc, je n'ai pas le trac, jamais.
Donc là, on entre au Palais Brumbrognard.
Et nos copains de Moulinex sont rentrés, donc ça devrait le faire. Enfin, ils ont l'air d'examiner sérieusement les documents quand même. Bonjour. Bonjour. Voilà, je ne sais pas si ça vous satisfait. Bon, c'est ce que ma banque m'a transmis. Hein.
Il ne dit pas que vous souhaitez participer à l'Assemblée.
Ben, si je suis là, c'est que je souhaite y participer. Ouais.
Mais je veux dire, le document ne le dit pas. Et quel est votre établissement financier, monsieur?
Le Crédit Coopératif.
Vous revenez me voir si vous voulez bien, monsieur. Vous avez un petit déjeuner, si vous voulez, entre-temps.
Oui, le petit déjeuner. En France, les actionnaires, c'est pas celle qu'on voit dans nos magasins. Hein. C'est incroyable. C'est presque caricatural.
C'est le sixième fax que je reçois et pourtant elle a elle a bien accusé réception.
Vous avez eu ma banque ?
J'ai eu votre banque, il devrait me faxer, monsieur.
Non mais le fax ne marche pas. Un fax fourni par Casino, mais il n'y a pas de service après-vente. Voilà.
Donc là on attend, on est dans les sous-sols du Palais Brongniart, la place de la Bourse, à l'Assemblée Générale du Casino. Il y a des petits panneaux dans l'entrée qui présentent les 76 000 collaborateurs, les 122 magasins géants Casino, les 789 magasins Marché Franprix, les 463 magasins, le discount.com et ainsi de suite. Et ça commence quand même par un premier gag, puisque nous attendons des fax de notre banque à l'accueil, là, et en fait, le fax fourni par Casino ne fonctionne pas. Il n'y a pas, pour l'instant, le service après-vente Casino. Voilà, ça commence quand même par un gag.
Vous êtes dans le même cas que nous, madame ?
J'en ai peur. Ah. C'est très drôle. Il vaut mieux le prendre en riant.
Ouais. Bonjour.
On passe au guichet qui est là-bas.
Ici, là ? C'est le parcours du combattant. Hein.
Pareil.
Et c'est kafkaïen.
Mais là, madame était là.
Et l'entrée, c'est où ? C'est là ? Là-bas. Alors, regardez.
Bonjour, c'est ma première AG. Alors, j'ai mon attestation qui est faite en double, on ne sait jamais.
Non, il me suffit. Donc,
d'accord.
Si elle est en double,
le mot de mon banquier.
Donc, je conserve tout.
Vous conservez tout. Et j'ai mon passeport. Je signe ici.
Ça, c'est pour insérer dans le boîtier à l'entrée de la salle.
Jean-Louis.
Ben,
ça y est.
On a gagné 25 euros. On a un bon d'achat de 25 euros chez Casino. Hey. 120 000 moins 25, c'est le début de la fortune.
À déduire du chèque, hein, de Jean-Charles Naouri. C'est contrôlé, les actionnaires.
Il me dit, ouvrez votre sac. Alors, ben, j'ai dit, c'est un sac de femme, il y avait tout en vrac. J'ai dit, il n'y a qu'une chose que j'ai oublié, c'est mes culottes dans mon sac matin. Le mec, il était pété de rire, il m'a dit, bon, passez, allez. Tu sais, il faut avoir de l'humour avec eux.
Ça va ?
Bah, on attend le fax.
D'accord, non, moi, ça y est. On commence à s'installer, à vous réserver des places à côté de nous. Allez. Vous aussi, vous attendez là, hein. On réserve 3 places.
Donc là, je me trouve dans les toilettes du Palais Brongniart, place de la Bourse, où se déroule l'Assemblée Générale du groupe Casino. On a eu beaucoup de mal à passer le premier barrage parce que Casino n'avait pas transmis le bon numéro de fax aux banques pour recevoir les attestations. On est rentré quand même tous seuls. Les gens de chez Moulinex, les gérants de Casino, on est tous rentrés. Là, je viens aux toilettes, en fait, pour préparer le matériel qui a un son, espérons-le, convenable et qui soit enregistré lors de l'altercation. Naouri, au-delà d'être la 63e, je crois, fortune de France, au-delà d'être le PDG du groupe Casino, c'est l'homme qui, dans les années 80, a créé le Matif, le Monnaie, un certain nombre de marchés financiers aux côtés de Pierre Bérégovoy alors qu'il était ministre de l'économie et qui en fait convertit les socialistes aux affaires.
Il est devenu affairiste lui-même. C'était le premier private equity, c'est-à-dire finalement un capitaine d'industrie sans industrie, plutôt un capitaine de finance.
Il y a combien de personnes à peu près là d'actionnaires dans la salle?
Pour l'instant
350.
350?
Ouais. 250, 300.
Allez demander à Jean-Charles Lavry.
Il a des chaussures cousues main ou pas? On les voit pas. Ah oui, parce qu'il est derrière l'estrade, ah ouais. Là, on ne voit pas grand-chose.
Ah oui, il y a 200 000 salariés quand même.
Chez Casino?
Ouais.
Dans le monde, il y a 200 000 salariés, ouais.
Non, mais il ne va pas nous reconnaître, mais il va se rappeler. Hein. Quand tu vas dire Moulinex, tu vas dire « putain, je suis dans la merde ».
Quelques mots des résultats financiers pour dire que le ROC, sur 10 ans, s'est accru fortement en passant de 653 millions d'euros en 2000 à 1209 millions d'euros en 2009. C'est de bon augure pour l'avenir.
C'est formidable cette violence sociale. Hein. On a juste une cravate, de la tranquillité, des sourires, des chiffres. Et en vérité, derrière tout ça, c'est de la violence. Ils ont produit des suicides, des dépressions, tout ça. Mais c'est nous qui allons apparaître comme violents. Parce qu'on va venir perturber leur cérémonie.
En France, Casino vise le renforcement de ses parts de marché grâce à l'amélioration de la compétitivité des prix de ses enseignes. Nous sommes convaincus que la qualité des actifs du groupe sur des pays à très fort potentiel permet d'anticiper une croissance élevée et rentable en 2010 et au-delà. Donc globalement, nous avons une progression du chiffre d'affaires de 40% sur la période. Le chiffre d'affaires est passé de 19,1 milliards d'euros à 26,8 milliards d'euros. Le ROC a quasiment doublé et la marge opérationnelle s'est améliorée en France et à l'étranger.
Donc là, c'est le chiffre clé qui est annoncé. C'est une hausse de dividendes de 4,7%. On prévoyait 4,5%, c'est finalement 4,7% pour l'année 2009. L'année 2009 qui était une année de crise. 4,7%, soit largement deux fois plus que l'inflation. Les actionnaires dans la salle n'auront pas serré la ceinture en 2010.
Voilà ce que je souhaitais vous dire sur les résultats du Casino en 2009 et les perspectives pour 2010 pour les années suivantes. Passons maintenant à l'aspect responsabilité sociale et environnementale, ce qu'on appelle développement durable. Pour nous, ça s'appelle agir en commerçant responsable. C'est une démarche tout à fait structurante pour Casino. Regardons d'abord, si vous le voulez bien, la consommation responsable. Nous avons étendu les gammes Casino Bio. Nous avons désormais 176 références.
Ah, il s'agit du bio. Il y a du bio chez Casino. Là, il y a une image avec tous les produits bio. Ça va. Ça va, c'est éthique, c'est responsable.
Une charte nutritionnelle. En 2009, nous avons signé le pacte mondial des Nations Unies. Nous avons défini, à la suite de cette signature, un programme d'action spécifique et concrète pour 2010. Par exemple, recrutement en France de 100 jeunes diplômés issus des quartiers défavorisés. Enfin, nous avons finalisé la charte éthique du groupe.
Ah, on annonce, vous avez entendu, l'engagement commerçant responsable, c'est 100 embauches. 100 embauches sur 76 000 salariés, sur 76 000 collaborateurs, comme dit Casino. 100 sur 76 000.
Troisième volet du développement durable, c'est le développement de la production d'énergie solaire. C'est le projet qu'on appelle le projet Green Yellow. C'est une filiale spécialisée dans la conception et la promotion de centrales photovoltaïques. Nous avons un très ambitieux programme de développement avec le déploiement sur les sites du groupe situé au sud d'une ligne Bordeaux-Grenoble, soit un potentiel de plus de 250 MW. Nous souhaitons équiper les toitures et les parkings des bâtiments commerciaux et industriels. Nous allons maintenant vous projeter un bref film sur la ligne.
Ce qui est génial à l'écran, c'est qu'on nous présente un projet de développement durable et on nous montre des photos en fait de parkings, d'autoroutes, de grands magasins, donc de ferraille et de béton dans les zones commerciales, en nous disant c'est du développement durable parce qu'on va mettre des panneaux photovoltaïques sur les toitures. Il est beau le monde développement durable qu'on nous prépare.
Qui nous permet de créer de la valeur à l'instar des centrales photovoltaïques.
Voilà, c'est pas toujours, c'est pas tous les jours que les auditeurs fidèles de cette émission peuvent assister à une assemblée d'actionnaires comme celle-ci où, vous le voyez, vous l'entendez, on fait dans le développement durable, dans le green business, comme là-bas j'y suis d'ailleurs. Hein. Vous savez que c'est une émission verte,
là-bas si j'y suis. Ça vous peint les oreilles en vert là-bas si j'y suis. Ah oui, absolument, c'est une émission verte. Alors, il y a une autre chose que M. Jean-Charles Naouri a abordée, si vous avez eu l'oreille justement assez fine, c'est la responsabilité sociale, la charte éthique, responsabilité sociale. Et ben voilà, là on arrive vraiment à l'occasion d'un dialogue entre ces anciens salariés de Moulinex, où, on vient de le dire à plusieurs reprises, M. Jean-Charles Naouri a eu des responsabilités, et l'un des collaborateurs de Casino, Christophe, que vous aviez rencontré en décembre 2007 et qui avait des graves problèmes avec sa direction. Donc là, on va avoir la possibilité d'un dialogue social dans le cadre de la charte éthique de Casino.
Très bien, merci. Maintenant, nous pouvons répondre à vos questions.
Ah, la séance des questions commence enfin. On lève la main, l'hôtesse se dirige vers nous.
Bonjour, monsieur Naouri. Je note dans le rapport qui vient d'être rendu, un assez long rapport, qu'il y a une absence des salariés. Il est marqué sur le tableau derrière vous qu'il y a 200 000 collaborateurs à travers le monde, et pourtant, les salariés sont absents du rapport. Et finalement, quand on connaît l'histoire de votre parcours, c'est quelque chose qui ne me surprend pas. Sur ce qui s'est passé chez Moulinex, par exemple. Bon, chez Moulinex, vous y êtes passé, vous avez fait une plus-value confortable. Derrière, il y a eu 3500 licenciements. Il y a eu des suicides, des dépressions, des divorces, ainsi de suite. Mais vous en êtes sorti. Pour ce qui est du groupe Casino, j'ai eu à rencontrer un certain nombre de gérants des petits casinos qui se trouvent exploités. Ils espèrent en tirer un revenu confortable. Ils travaillent pas 35 heures par semaine, mais plutôt 70. Et ils terminent à la fin du mois avec 1 000 euros. C'est sur ça, quand même, qu'est assis votre 1 300 000 euros de salaire annuel. C'est sur ça que sont assis les dividendes, les 4,5% d'augmentation du dividende qui vont pouvoir être versés. Dernier point. Dans les années 80, vous avez été le grand libérateur de la finance en France, aux côtés de Pierre Bérégovoy, lorsque vous étiez proche de Pierre Bérégovoy dans les cabinets socialistes. Vous avez été, à ce moment-là, vous avez converti les socialistes aux affaires avant de passer de l'autre côté et devenir un homme d'affaires pris dans les affaires avec de l'initié de la Société Générale, où vous avez été blanchi. Ma question, c'est, à cette époque-là, vous avez été un initiateur. Vous avez converti la gauche aux affaires, à l'affairisme, la finance qui a écrasé les salariés depuis 25 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pourriez pas être un initiateur en sens inverse, à savoir, plutôt que d'augmenter les dividendes de 4,5%, être l'initiateur qui propose finalement de ne pas verser de dividendes cette année, compte tenu de l'augmentation de plus de 50% du cours de bourse. Je pense qu'il y a un certain nombre de gérants du petit casino qui vivent très mal en ce moment. Bah oui, et ça n'est pas du tout représenté dans votre rapport. Apparemment, ça ne dérange pas trop les actionnaires non plus, après les réactions où j'entends.
Je vous remercie pour cet aspect-là. Et donc, passons maintenant.
Non, mais il y avait une question quand même. Pourquoi ne demandez-vous pas à l'Assemblée Générale de ne pas augmenter les dividendes cette année et de reverser tout ça à des gérants?
La question sera posée quelque part par le vote tout à l'heure sur les dividendes et vous verrez la réponse.
Je m'excuse.
Si vous voulez qu'on reprenne ce débat en privé, parce que visiblement ça n'est pas aujourd'hui l'objet de la réunion. Je propose qu'on revienne à l'Assemblée Générale si vous voulez.
Oui, sur le même thème.
Il y a d'autres questions.
Je voudrais poser une question.
Monsieur voudrait poser une question.
Le bilan financier du groupe est très flatteur, c'est très bien. À mon sens, c'est pas le cas au niveau du bilan social. Je note, je suis moi-même gérant d'un petit casino. Enfin, je l'étais. Un couple de gérants de supérettes qui bossent chacun 70 heures par semaine, ils gagnent pas en 2 mois ce que le président gagne en une journée. Ça, c'est déjà un premier chiffre. Ensuite, mon histoire, elle est simple. J'ai cru aux promesses des recruteurs du groupe sur le commerce de proximité, son intérêt pour le lien social et la vie de la collectivité. J'y ai cru. J'ai abandonné avec mon épouse, nous avons abandonné tous les deux, des situations enviables. Quelques années plus tard, on n'est plus des gens dans des situations enviables, on est des cas sociaux. J'ai failli mourir d'épuisement au travail. Je suis resté 3 mois dans le coma.
Bah oui, ça vous arrive pas.
Je suis resté 3 mois dans le coma. Et ça fait maintenant plus de 2 ans que je me bats devant les tribunaux pour que l'entreprise organise mon retour à l'emploi. Les tribunaux se sont prononcés en ma faveur. Casino n'exécute pas les décisions des tribunaux. Casino va jusque quasiment dans tous les procès, jusqu'en cassation pour perdre en cassation, mais le groupe n'exécute pas les décisions de justice. C'est une honte, la politique sociale de ce groupe.
Sur le même sujet.
Non. Très bien. Donc c'est plus en fait un constat qu'une question que vous posez. La direction des gérants mandataires, nous avons effectivement un contentieux avec quelques gérants mandataires qui visiblement sont venus aujourd'hui. Nous sommes en désaccord complet avec la position que vous exprimez. Nous avons des contentieux au prud'homme avec vous, visiblement. Les prud'hommes vont décider, les cours d'appel vont décider, c'est la loi normale républicaine en France. Et donc je n'accepte pas que vous commentiez, que vous qualifiez l'action de Casino et la mienne comme étant contraire à ces principes, au fond, de respect des travailleurs et des salariés. Je réfute complètement ce que vous dites, ça me paraît totalement inacceptable pour le groupe, parce que quelque part à travers moi, c'est l'ensemble des collaborateurs du groupe, notamment ceux qui sont présents ici, dont vous critiquez l'action de manière grave et inexacte. Je vous remercie pour cet aspect-là, et donc passons maintenant.
Commençons, si vous le voulez, par Leader Price.
C'est fou quand même, les actionnaires, tu leur dis que t'as failli crever.
Premier point, c'est que nous croyons qu'ils ne sont
pas contents. C'est sans doute pour un peu de moi que je suis en Thaïlande dans les implantations.
Je suis en centre-ville, avec un marché qui est en centre de Bangkok, qui a dû fermer.
Oui, bonjour, maître Fromentin. C'est François Ruffin. On est en reportage à l'Assemblée Générale du groupe Casino. On a posé des questions à Jean-Charles Naouri concernant les gérants des petits casinos. Et il a répondu qu'il s'agissait d'une toute petite minorité qui avait à se plaindre du casino, et que c'était pas du tout représentatif, que c'était des informations inexactes. Je crois que vous êtes en ce moment même dans un tribunal à Toulouse, c'est pour ça que vous ne pouvez pas être à l'Assemblée Générale. Vous êtes en ce moment même dans un tribunal à Toulouse pour défendre des gérants de petits casinos. J'aurais voulu savoir à peu près combien de dossiers vous aviez sur votre bureau concernant le casino. S'il s'agit vraiment que de 2-3 excités minoritaires, ou bien s'il y en a davantage que ça. Voilà, donc j'attends votre appel. Merci. Oui, maître Bouillet-Fromentin.
Oui, bonjour monsieur.
Lors de l'Assemblée Générale à laquelle nous avons assisté avec Christophe Léger, après qu'il a pris la parole, Jean-Charles Naouri, le PDG de Casino, a dit « Oui, bon, bah, effectivement, on a des conflits avec un ou deux gérants de petits casinos. Apparemment, ils sont dans la salle. Bon, vous comprenez, c'est un peu les excités. On verra bien ce que le tribunal voudra dire. » Alors, j'ai cherché à vous joindre pendant l'Assemblée Générale. Je suis tombé sur votre répondeur.
Oui. Je plaidais pour un autre dossier et pour un couple de gérants à Toulouse.
Toujours Casino ?
Oui, bien sûr. Et alors, je vous parle, je reviens d'un dossier Casino que je viens de plaider à Dieppe.
Donc, ça fait déjà 3 dossiers Casino. Il n'y a vraiment que 2 ou 3 dossiers, enfin quelques dossiers Casino comme ça ou...
Ah, écoutez, je pense que ou M. Naouri est mal informé, ou il veut désinformer. Je pense plutôt pour la deuxième solution, parce que sa société n'hésite pas à produire des chiffres qui sont faux dans le bilan social, puisque dans le bilan social, les procédures en cours qui sont annoncées sont inférieures en nombre à celles de mon seul cabinet.
Ah oui, ils indiquent dans le bilan social moins que simplement ce qu'il y a chez vous.
Oui, c'est ça.
Et jusqu'à maintenant, alors les procédures, elles en sont où ? C'est en attente de jugement, comme il dit, ou bien...
Alors, pour ce qui concerne Monsieur Christophe Léger, justement, ça tombe très mal parce que c'est jugé. Et la société Casino a été condamnée à exécuter la décision qu'il concernait, à savoir le contrôle par la médecine du travail de l'état de santé de quelqu'un qui avait fait un très grave accident cardiaque à cause de ses conditions de travail excessives. Qu'il en a été jugé d'autres en même temps et qui viennent d'être jugés par des cours d'appel différentes. Que certaines cours d'appel ont requalifié des contrats de gérance en contrats de travail salarié à cause des contraintes excessives des gérants et du fait qu'ils n'ont aucune liberté dans leurs conditions d'exploitation. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, je viens de prendre connaissance d'une condamnation rendue par le Conseil de Prud'homme de Saint-Germain-en-Laye. La semaine dernière, il y en avait une autre d'un autre conseil. Donc des condamnations, il y en a, et il y en a dans toute la France. Et je suis donc en contact avec quelques confrères, mais bien évidemment avec des gens qui en ont en nombre. Il y a en plus tous les gens qui ne se signalent pas et qui vont voir un avocat quelque part dans leur secteur et dont on apprend après qu'ils ont obtenu des décisions. Donc non, des condamnations, il y en a en nombre, bien sûr.
Jean-Charles Naouri dit 2 à 3 cas litigieux. Vous vous dites, à mon cabinet, j'en ai 70, et ça se compte sans doute au total plutôt près de 200 ou 300.
C'est ça. C'est tout à fait ça. Je le certifie absolument.
Je vous remercie, maître, en tout cas.
Je vous en prie.
Bonne fin d'après-midi.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir,
monsieur.
Lorsqu'on vous entendrait...
Pas de provocation, madame.
Alors là, Nagui essaye de prendre la parole en vain.
Général de Casino, pas de provocation politique.
Vous êtes un financier. Ça suffit, vous aussi.
Merci beaucoup.
C'est un mec qui est parti avec 58 millions. 58 millions d'euros, il est parti.
Vous donnez 4 euros par action.
Hein? Et nous, on a besoin de 120 000 euros pour aller au pénal, pour juger ces hommes-là. Et on les a pas, l'association. 120 000 euros, nous demande pour juger ces hommes-là.
Et la liberté de la justice.
Il est parti avec 58 millions d'euros.
Monsieur Naouri, je me permets de vous interpeller. Je m'excuse, messieurs, dames, j'ai quelque chose à dire. Monsieur Naouri, vous avez fait un bref passage chez Moulinex. Je suis une ancienne salariée de Moulinex. Je représente l'association des anciens Moulinex. Un peu de décence, messieurs, dames. Il y en a qui se sont suicidés, il y en a qui vivent dans les minima sociaux.
Mais oui, c'est la vérité, 22 ans avec la
fin. Monsieur Naouri, vous avez engrangé 50 millions d'euros lors de votre passage chez Moulinex. Il y a 9 mises en examen dans l'affaire Moulinex. Des amis, pour la plupart, à vous. Il y a, dans ce monde, des patrons voyous. Et je vous demande de répondre.
Mais vous pouvez répondre quand même, hein. Quand on téléphone à la communication, on n'a pas de réponse. Quoi, il n'y a que les actionnaires qui ont le droit à des réponses. Les salariés, les gérants de petits casinos, s'ils n'ont pas le droit à des réponses.
Et voilà, je l'avais dit, c'est nous qui apparaissons comme violents. Hein. Voilà, ça y est, je me suis un peu énervé, j'ai crié, j'ai demandé une réponse. C'est nous, c'est moi qui paraît agressif. Hein.
Je voudrais vous poser une question sur le... la nature du marque propre de Leader Price. J'ai eu récemment l'occasion de constater l'omniprésence de produits Leader Price dans le nord-ouest de l'Espagne, dans des magasins qui n'avaient évidemment rien à voir avec le groupe. Je voulais savoir comment il se faisait. C'était une politique d'extension de cette marque propre au statut de marque internationale en l'espèce. C'était un cas particulier.
Merci pour répondre.
Chaque question des actionnaires sur la forme des bouteilles d'huile d'olive, sur les marques Leader Price en Espagne, et sur les publicités qui arrivent trop tard dans les boîtes aux lettres, chaque question d'actionnaire a le droit à une longue réponse d'un dirigeant de casino, alors que les questions des salariés ont été groupées et balayées d'un verre de main.
Nous essayons également d'exporter notre marque, qui, dans la plupart des cas, a une très bonne notoriété dans les pays étrangers et sa consonance est une consonance qui passe dans toutes les langues.
Le slogan de Casino, c'est nourrir un monde de diversité. Et là, on la voit bien dans la salle, la diversité. Puisque tous les actionnaires sont blancs, aux cheveux blancs, tandis que les vigiles sont noirs, en costume noir. Donc voilà la diversité. Actionnaire blanc, vigile noir. Nourrir un monde de diversité, c'est ça.
Oui, monsieur le président, Patrick Raison, je représente ANAF. J'aimerais revenir sur Cdiscount. Vous avez évoqué donc le potentiel, puisqu'une position de leader et puis dépassement d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Quels sont vos objectifs de développement à moyen terme ?
C'est tellement bien fait, j'aurais jamais dit que c'était aussi chiadé. Je ne me croyais pas aussi semblable, diable. Mais il faudra bien que je m'y fasse un de ces quatre à la lutte des classes. Fichtre, c'est bigrement boutiqué comme un massacre à l'économe. Je ne me croyais pas aussi friable,
viable.
Mais il faudra bien que je m'y fasse. Un de ces quatre à la lutte des classes. Merde, nos rangs sont assez dépareillés, nos généraux soudoyés. J'ai jamais vu d'armée aussi minable, diable. Mais pourra-t-on toujours faire l'impasse, mine de rien, sur la lutte des classes.
Et la marge opérationnelle actuelle. Merci beaucoup.
Une stratégie fondée sur des prix discount, donc des prix clairement moins chers que la concurrence. Enfin, c'est l'objectif, et c'est, je crois, la réalité. La croissance 2019 a été de 10%. Nous souhaitons continuer à rythme de croissance.
C'était la première partie du reportage de François Ruffin et Pascal Pascariello à l'Assemblée des actionnaires du groupe Casino. Demain, dans La Basse, j'y suis, la suite de ce reportage. Et nous aurons des nouvelles de l'Assemblée qui a eu lieu cet après-midi. Merci à Christophe, Roger, Magui, Lionel, Jean-Louis, François et Vincent. Merci à Maître Claudine Fromentin ainsi qu'à Dominique, le patron du Bistrot des Colonnes à Paris. Et vous pouvez consulter l'appel à Jean-Charles Naouri et signer la pétition sur le site de Fakir. C'est www.fakirpresse.info. Mais vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission, là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Damien Sangali, Cédric Lalanne et Thibaut Deschamps. Réalisation Koyen Guyen. Assisté d'Agnès Lebotte et Marina Touyez attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Dans quelques minutes, ce sera Carrefour de l'Odéon. Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations avec Corinne Audouin.
Deux Français sont toujours en lice au tournoi de tennis de Monte-Carlo après la défaite de Richard Gasquet en huitième de finale face au numéro 1 mondial Raphaël Nadal. Gilles Simon va affronter le Britannique Andy Murray et pour l'heure c'est Gaël Monfils qui bataille face au Portugais Frédérico Gil. Bataille, c'est le mot Fabrice Abgral.
Ah, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est un match incroyable entre Gaël Monfils et Frédérico Gil, mais malheureusement pour l'instant avantage à Frédérico Gil puisqu'il a remporté le premier set sur le score de 7 jeux à 6 au tie-break. Un tie-break qu'il a remporté 8 points à 6. Ce simple premier set a duré en tout 1h27 et dans la deuxième manche, Gaël Monfils est en train de craquer physiquement puisque Federico Gil a déjà pris deux fois le service du Français. Il mène 4 jeux à 1. Il est au service actuellement Federico Gil pour tenter de mener 5 jeux à 1. Monfils est en train de craquer, vous savez, il reprend la compétition, il manque un petit peu de repères, il manque de matchs, il manque de compétition et forcément là il est en train de payer les efforts fourni lors du premier set. Sachez que Gilles Simon est actuellement sur le court central. Le match a débuté il y a 12 minutes très précisément. Il est opposé à Andy Murray et un jeu partout entre les deux joueurs dans la première manche.
Merci Fabrice Abgral. L'OTAN se défend des critiques de Paris et de Londres à propos de l'intervention militaire en Libye. L'Alliance Atlantique dispose de moyens suffisants, même si quelques avions supplémentaires pour réaliser des attaques au sol sont nécessaires, a dit son secrétaire général. Les chefs de la diplomatie des 28 pays membres de l'OTAN, réunis à Berlin, se sont mis d'accord pour appeler à la poursuite des frappes tant que les attaques du colonel Kadhafi se poursuivent. Et comme pour prouver la sincérité de cet engagement, une forte explosion, probablement due à des raids aériens, a été entendue à Tripoli, la capitale. Le roi du Maroc, Mohamed VI, gracie 190 détenus en réponse à une demande du Conseil national des droits de l'homme. Il s'agit pour la plupart de détenus de droit commun, mais aussi de plusieurs islamistes modérés. La police japonaise a retrouvé 10 corps de victimes du tsunami autour de la centrale de Fukushima. La zone de 10 km autour du site accidenté était explorée pour la première fois depuis le 11 mars. Près de 15 000 personnes sont toujours portées disparues au Japon. Pour l'autorité de sûreté nucléaire française, l'ASN, l'accident nucléaire de Fukushima reste moins grave que Tchernobyl, même s'il a été classé au niveau 7, le plus élevé par l'autorité japonaise. René Maratier, le maire de La Faute-sur-Mer, en Vendée est arrivé au palais de justice des Sables-d'Olonne. Il va être présenté au juge d'instruction. L'élu avait été placé en garde à vue hier dans le cadre de l'enquête sur les responsabilités après la tempête Xynthia qui avait fait 29 morts. Et cette présentation au juge pourrait déboucher sur une mise en examen. Le Sénat a adopté en seconde lecture le projet de loi sur l'immigration. Sans surprise, l'UMP a voté pour, les partis de gauche contre. Mais nombre de sénateurs de l'Union centriste se sont abstenus. Ils désapprouvent le ralliement de la majorité sénatoriale à l'encadrement du droit au séjour des étrangers malades. L'envoi des formulaires de déclaration de revenus 2010 va commencer mardi prochain. Les 36 millions de foyers fiscaux auront jusqu'au 30 mai minuit pour les renvoyer, un peu plus s'ils font leur déclaration par Internet. 19 films pour une palme. Le Festival de Cannes a dévoilé sa sélection avec les habitués Pedro Almodovar, les frères Dardenne, Aki Kaurismäki, Nanni Moretti ou Lars von Trier, le très attendu film de Terrence Malick qui n'avait pas été prêt à temps l'année dernière, les petits nouveaux comme la française Mai Wen et le vétéran Alain Cavalier avec un film qualifié par Thierry Frémaux, le délégué général du festival, comme l'une des choses les plus bizarres jamais présentées à Cannes. Ça promet, le Festival de Cannes, c'est du 11 au 22 mai.
Tous les jours.
Dis donc, mais toi, tu fais jamais rien.
À partir de 11h.
Ça, c'est quand je suis en forme.
Le fou du roi.
Stéphane Bern.
Vous avez un humour qui est dévastateur, mais avec le risque de pas forcément être compris.
Pour assister au prochain Fou du Roi, en direct du studio 106, avec Claude Allègre, Alexandre Dehinard et Thomas Hubert, rendez-vous demain vendredi dès 10h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Il s'en est bien sorti, hein.
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
Le Fou du Roi.
Ben oui.
Tous les jours sur France Inter. À partir de 11h, France Inter,
la différence.
Et à 16h04 sur France Inter, il est l'heure de retrouver le carrefour de l'Odéon.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. La musique est un magnifique support des émotions, de toutes les émotions, les plus dramatiques comme les plus légères. On peut se divertir, on peut s'amuser en même temps, s'instruire, par exemple en travaillant le divertimento de Haydn. Ces divertissements qu'il a composés dès sa jeunesse sont déjà pleins d'enseignements. Par exemple, voici un allegro molto, très rapide, donc d'un divertissement pour 9 instruments. Il faut y aller parce qu'il y a des parties de corps qui sont difficiles. Les violons doivent donner aussi de leur talent, les hautbois, les deux altos, et puis la basse, oui, léger peut-être, mais déjà formateur. Allegro molto, en français très rapide, d'un divertimento pour neuf instruments de Joseph Haydn. Il avait 22, 23 ans, quelque chose comme ça. Interprété par le Haydn Sinfonietta de Vienne, dirigé par Manfred Huss. Quand on dit scherzo, ben on pense aussi à un divertissement, à un jeu, en tout cas, un amusement. Mais quelquefois, la sensibilité prend le pas et une sensibilité romantique. Chez Félix Mendelssohn, le scherzo n'est pas franchement gouailleur, pas franchement joyeux, non, non. Il utilise aussi une technique très virtuose et puis il dit des sentiments, il dit des choses qui sont profondes, voire poignantes. Scherzo en mi mineur de Félix Mendelssohn par Bertrand Chamaillou.